Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine interactif Parole aux auditeurs. La Belgique a décidé de revoir son aide financière à la RDC dans le domaine humanitaire à la suite de la situation politique qui prévaut au pays. La Belgique compte développer la coopération directe avec les organisations locales de développement à lieu et place du gouvernement congolais en attendant l'organisation des élections. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également nous déposer vos points de vue à l'adresse pa@radiocapi.net. Nous avons un réel plaisir de vous présenter ces magazines. Mimi Kindou est à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation, Gilles Lungembo est à la coordination et Pierrot Elamiji vous le présente sous la supervision de Julien Nyamouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au Développement Alexandre De Croo ont décidé de mettre fin à une série d'interventions qui devaient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises. La décision a été prise mercredi 10 janvier lors de leur intervention à huis clos devant la Commission des Relations Extérieures de la Chambre pour exposer la politique belge à l'égard de la République démocratique du Congo, estimant que le 25 millions de dollars augmentés d'aide humanitaire devrait être non donné directement aux autorités congolaises, mais la Belgique décide de travailler avec des organisations non gouvernementales. Comment réagissez-vous face à cette décision? On en parle ensemble avec vous et nous avons associé à cet échange Maître Guillaume Mandjolo, écrivain, secrétaire général de l'ULDC, l'Union de libéraux démocrates du Congo, c'est un parti de la chrétien. L'Union des libéraux démocrates chrétiens. Voilà, un parti de la majorité présidentielle. Maître Mandjolo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Il pleut sur la ville de Kinshasa, vous êtes quand même déplacé.
Oui, j'avais l'obligation de pouvoir venir ici parce que, à la fois, c'est une opportunité qui m'est donnée en termes de la rentrée et au niveau des ondes. Et pour en profiter, pour pouvoir dire mes vœux le meilleur à tous ceux qui me suivent, à la RDC en général, à tous les Congolais qui sont dans la souffrance et ceux qui sont dans l'espérance, tel que j'avais annoncé dans mon message de fin d'année, et en même temps à déplorer toutes les morts qu'on a pu avoir pour conséquence des pluies diluviennes au niveau de Kinshasa et ailleurs. Et pour l'instant, j'apprends aussi qu'il y a une épidémie de choléra.
Exactement, la ville de Kinshasa, oui.
Et tout ça, donc ce sont toutes ces choses-là sur lesquelles je devais m'apesantir, donc c'était une opportunité pour pouvoir le dire. Voilà, je suis là et je vais profiter pour en discuter de ce que, du sujet du jour.
Voilà. Mais est-ce que c'est pas quand même la première fois dans l'histoire de relations entre la RDC et la Belgique revoie son aide humanitaire en décidant de ne pas l'octroyer directement au gouvernement et en passant par les ONG les organisations non gouvernementales. Est-ce qu'on peut dire que une telle procédure pendant une période comme celle-ci où la RDC a besoin d'aller aux élections, est-ce qu'elle est opportune?
Je pense qu'elle n'est pas opportune pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que nous devons, en fait, on reproche à la RDC très souvent de ne pas observer les textes. Mais ici, il me semble quand même nécessaire de relever qu'effectivement, la Belgique, au jour d'aujourd'hui, n'observe pas les textes et la procédure telle qu'elle est déclenchée, je ne connais pas les soubassements ou la profondeur ou la substance de cette procédure, mais elle est en contradiction ou elle contrevient aux dernières conventions qu'on a faites avec la Belgique. Le 24 janvier 2009, il a été convenu entre les ministres, le Premier ministre Mousito et le Premier ministre Mousito de la RDC et le Premier ministre belge Herman Van Rompuy, une normalisation de nos relations qui était interrompue pendant une période, les cadres dans lesquels on devait devoir évoluer. Et à cette occasion, il a été dit que bon, le respect total de la souveraineté et les cadres des discussions devaient être opérés autrement qu'à travers les médias, à travers les annonces de cette nature-là. Je pense qu'il n'est pas recommandé. Si la Belgique a envie de soutenir la RDC, il y a les cadres appropriés. Si la Belgique a besoin de critiquer les gouvernements congolais, il y a des cadres appropriés où on se retrouve pour pouvoir discuter des choses et d'autres. On met sur la table les grandes questions, comme on appelle ça en philosophie au jour d'aujourd'hui. Il me semble qu'Achille Mbembe est aujourd'hui le porteur de cette idée-là des grandes questions. On met les grandes questions sur la table, on vérifie maintenant en regard de nos souverainetés. Alors, pour l'instant, il me semble-t-il que la procédure électorale est en cours. Il aurait fallu voir si effectivement la Belgique reproche à cette procédure des transmissions pacifiques ou de l'alternance du pouvoir au niveau du sommet est-elle en faillite, oui ou non, par rapport à la procédure actuelle. C'est sur cette base-là qu'on a devoir discuter. Et puis, de manière, je veux dire, collatérale, on peut regarder les droits humains, tout le reste. Mais il y a des cadres par rapport à ça. Il me semble pas que ce soit utile de pouvoir entrer en réunion de manière discrète, unilatéralement, prendre des décisions qui sont de nature à être appelées quasiment des fatwas ou des oukases. La Belgique a décidé. Mais lorsqu'on est dans la coopération entre deux États, peu importe l'aide que vous apportez, c'est de manière bilatérale qu'on en discute.
Mais est-ce que c'est, d'un côté, on peut dire que c'est une façon de faire pression sur le gouvernement congolais pour qu'enfin on obtienne ces élections, parce que vous avez dit, nous sommes dans le processus.
Oui, mais faire pression, c'est quoi exactement sur un pays souverain? Non. On a établi un cadre de collaboration, de normalisation d'abord, de collaboration, de coopération. Ce cadre a permis notamment que juste après avoir discuté de ça, au mois de janvier 2009, par la suite, les ministres de la coopération à l'époque, son excellence Ramotshi Banda, dont j'étais le conseiller à l'époque, j'ai accompagné d'ailleurs, et monsieur l'actuel premier ministre belge, Charles Michel, était en charge de la coopération aussi. Donc nous avons travaillé ensemble pour faire en sorte que les pics 2010-2013 soient opérés de manière conséquente, dans une collaboration parfaite. Ce qui a été fait, et ça donnait des fruits. Bon, maintenant, on sait aussi qu'une série de pays passent par les ONG, et c'est pas très recommandé, pour la simple raison qu'est celle-ci. L'essentiel de l'argent qui est affecté aux ONG est consommé plus ou moins à 2/3 par ces ONG à leur propre profit. En termes de déplacement, en termes de matériel, en termes en termes de monuments et tout ça, finalement, sur les 25 millions dont on parle, n'arrivera au bout du compte, n'atteindra la population éventuellement qui est nécessiteuse que autour de 5 millions ou 6 millions. Donc, voyez-vous, et il est dit aussi, bon, je ne veux pas aussi aujourd'hui l'établir de manière tout à fait exacte, qu'il y a des rétrocommissions au niveau des ONG. Et tout le monde le sait. Bon, là encore, il faut établir avec les preuves précises. Mais néanmoins, c'est qui est vrai que les ONG qui bénéficient de ce type de manne financière rétrocèdent à un certain nombre de partis politiques, notamment en Occident. Et on le sait. Je ne pense pas qu'on peut, par l'étruchement d'une frustration quelconque ou parce qu'on n'aime pas ceux qui sont au pouvoir et qu'on aurait souhaité que d'autres y soient, selon ses propres sentiments, sa propre passion, qu'on puisse tout dénaturer et qu'on puisse même déchirer la feuille des routes qu'on a convenue ensemble en 2009.
Merci. On va revenir à vous. Qu'en pensent les auditeurs? Vous êtes nombreux. On a vu sur la page Facebook, vous avez commenté ce sujet. Nous sommes avec vous aussi en direct au 081-890-4969. Charles, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette décision de la Belgique?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez. Je profite de saluer tous les milliers auditeurs de la Radio Capi. Mmh. Je crois que on ne peut pas parler de l'histoire de la RDC sans penser à la Belgique. Nous venons de célébrer aussi hier le 57e anniversaire de la mort de Méry Patrice Lumumba, parce que lui aussi a lutté pour l'indépendance du Congo avec la colonie belge. Monsieur Gier, Monsieur Pierrot, lorsque nous avons pris cette décision de la Belgique, ça nous a beaucoup dérangé. Pourquoi? La Belgique a pris une décision pendant que notre pays est en train de traverser une période très difficile et très délicate. Je crois qu'à l'introduction de cette émission, vous l'avez évoqué. Nous avons les élections qui se pointent déjà à l'horizon. Or, pour organiser bien des élections, nous avons besoin de l'argent qui doit provenir des sources internes et externes. Alors, quand la Belgique prend une telle décision, ça doit nous faire réfléchir. Mais on se pose aussi des questions. Pourquoi la Belgique a attendu seulement pendant cette période pour venir prendre une telle décision? Pourquoi la Belgique n'a pas eu le temps de pouvoir parler avec nos autorités avant de publier sa décision qui nous rend vraiment malades? Parce que là, vous savez que nous mettons nous aussi en cause les élections qui se posent déjà à l'horizon, parce que ces élections-là doivent avoir des financements. Alors, M. Thiraud, on se dit maintenant, si les autorités, la Belgique n'a plus confiance aux autorités congolaises, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'ils se retrouvent quand même autour d'une table pour trouver un peu une solution par rapport à ça? Je pense que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin d'évoluer. La Belgique, c'est notre partenaire. En tout cas, nous demandons aux Belges de pouvoir mettre un peu de l'eau dans leur vin afin de revenir à la raison, parce qu'ils ne peuvent pas nous abandonner. Pourquoi nous craignons, Monsieur Pierrot? Si la Belgique qui nous a colonisés arrive aujourd'hui à nous abandonner, et les autres qui ne nous ont pas colonisés, vous pensez qu'ils peuvent facilement venir nous aider?
Voilà. Merci beaucoup, Charles. Vous avez abordé dans ce sens où vous estimez qu'il faut qu'il y ait des discussions autour de la table d'une manière conviviale et commune. D'ailleurs, parce que vous avez évoqué les élections, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, en réagissant à ces décisions, vous l'avez suivi sur Radio Capi, il s'est inquiété en disant qu'au lieu de financer les élections qui coûtent cher, la Belgique choisit de financer un groupe d'individus qui veulent déstabiliser le pays. Alors, l'intervention humanitaire, malheureusement, je crois qu'il n'est pas destiné pour le financement des élections, mais on aurait souhaité voir la RDC être accompagnée, même par la Belgique, pour avoir ses financements et organiser les élections. Merci beaucoup, Charles. Christian, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue, Christian.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci, Pierrot. Il s'est d'abord de noter que la décision prise par la Belgique en DIP, c'est ce qu'on appelle... En fait, c'est juste pour exprimer un mécontentement ou un désaccord par rapport au comportement de son partenaire. Et cette réaction peut aussi avoir une réponse de la part justement de l'État contre lequel cette décision a été prise. C'est ce qu'on appelle généralement la réciprocité, parce que j'ai entendu votre invité dire que la RDC est souveraine. Si la RDC est souveraine, elle peut aussi réciproquer dans ce sens-là. Alors, parlons maintenant de la décision elle-même. D'abord, il faut noter que en RDC, il y a une loi qui organise les ONG. Il s'agit de la loi numéro 004-2001, portant justement les dispositions générales aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Alors, M. Pierrot, étant souverain, moi je crois que la Belgique est libre de collaborer avec les partenaires de son choix. Mais un problème se pose. Il ne suffit pas seulement de changer de partenaire pour avoir la clarté par rapport à une question donnée. Il faut encore que ce partenaire ait la bonne foi, ce partenaire soit vraiment crédible. Or, dans les cas de nos ONG, M. Pierrot, vous êtes en ignoré qu'il y a certains ONG qui regorgent en son sein les catégories de membres d'une seule famille. D'autres encore qui regorgent le membre, d'autres encore, pardon, qui le poste le plus cité sont réservés exclusivement aux membres de la famille du coordonnateur. Alors, face à tout cela, M. Pierrot, moi je crois que La décision de la Belgique ne va rien changer. Ça n'aura pas justement des résultats escomptés. Étant donné que ça sera en quelque sorte du blanc bonnet au bonnet blanc. Étant donné que tous ces ONG là, quand vous faites en sonnant sur le terrain, vous n'allez pas justement avoir la précision par rapport au pourcentage et leurs travaux. C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que justement, il y a une sorte de coulage installé au sein de ces ONG-là. Trop souvent, ces ONG-là, lorsqu'ils reçoivent un financement ou un avantage quelconque, c'est au bénéfice de leur famille, au bénéfice de leur proche. Voilà pourquoi moi je suggère que la Belgique puisse coopérer justement avec les ONG internationales qui sont installées ici en RDC. À l'occurrence justement des ICLA, qui est une ONG américaine qui travaille dans les domaines de la santé publique en milieu urbain et rural. C'est de cette manière-là que le petit peuple va sentir l'aide de la Belgique ou d'autres partenaires. Mais travailler tout simplement avec les ONG, franchement, c'est du verre.
Oui, ça sera difficile. Merci beaucoup, Christian. Mais rappelons quand même, quand vous l'avez dit, qu'il y a une loi qui gère les ASBL. S'il arrive que nos ASBL soient des connotations tribales ou familiales, ou que l'argent ne soit pas bien géré, il revient aussi à l'État congolais de savoir comment ces structures fonctionnent, comment elles sont structurées, qui les dirigent, est-ce qu'il y a eu un équilibre respecté, qu'est-ce que la loi dit exactement. Ça, c'est aussi de notre responsabilité. Mais vous estimez que la décision de la Belgique ne va rien changer, autant mieux peut-être collaborer avec les ONG internationales que les ONG congolaises. Merci beaucoup Christian Franck, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Vienne, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à votre invité, bonjour à tous les amis de la Radio Capi.
On vous écoute.
Et merci beaucoup. Je crois que cette décision ne peut plus surprendre une catégorie de citoyens congolais qui suivent de près ce qui se passe chez nous et de différentes opinions émises ici et là en dehors de nos frontières nationales. Car nous ne devons pas oublier que la RDC comme pays souscrit à certains traités et accords internationaux. Et donc, à base de cette souscription, elle est dans l'obligation de respecter certaines valeurs et principes démocratiques reconnus au niveau universel au sein de ses États membres. Puis, un autre aspect dont il faut tenir compte, la Belgique est un pays souverain, tout comme la RDC l'est aussi. Partant de ce fait, elle est libre pour assister la République démocratique du Congo ou de suspendre cette assistance si elle se rend compte que quelque part, les accords donnés ou bien la manière de faire n'est plus vraiment tel qu'on s'était mis d'accord, quoi. Oui, lors du dernier séjour du vice-premier ministre des Belges, nous l'avons vu sillonner certains coins de la capitale et quelque part, moi personnellement, je l'ai suivi quand il s'est dit être très très touché par la réalité que lui-même a trouvée en place. Ça, c'est un des aspects. Puis de deux, suite à cette situation, il avait déjà préconisé d'atteindre directement les couches les plus démunies de la population. Et suite à ce qui vient de se passer le 31 décembre lors de la marche des chrétiens, personnellement, je trouve que ça ne peut plus nous étonner s'il y a des réactions comme ça. Monsieur Pierrot, je crois que nous devons être conséquents quand nous argumentons sur la souveraineté de notre État ou de notre pays. Ou bien on sait ce qu'on veut ou on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que quand on dit au fur et à mesure que nous sommes un État souverain, nous n'avons besoin de recevoir d'injonctions de personne, nous n'avons besoin de... Donc, quand un pays prend la décision de nous retirer son aide, je crois que moi, personnellement, je trouve que nous n'avons plus à nous plaindre, nous n'avons plus à nous poser beaucoup de questions, parce que nous devons être conséquents que nous sommes aussi responsables de tout ce qui se passe chez nous. Et quand les autres voient que le principe des droits de l'homme n'est plus respecté, la liberté d'expression n'est plus respectée, la liberté de marcher n'est plus respectée. Donc, ou c'est de la dictature ou c'est de la démocratie. Alors, si vous dites que vous êtes un pays démocratique et qu'au lieu de faire respecter les valeurs démocratiques, vous imposez les autres valeurs, les autres peuvent vous interpeller. Et quand ils vous interpellent, comment nous prenons position? C'est à ce niveau-là que je crois que nous devons localiser notre débat. Je crois que, personnellement, ça ne m'étonne pas. est l'une des conséquences manifestes de tout ce qui se passe chez nos pays. Alors, au lieu de nous en prendre à la Belgique, assumons-nous, parce que nous avons toujours largué que nous sommes un pays souverain. Et montrons maintenant à la face du monde que nous sommes réellement et véritablement un pays souverain. Je crois que c'est à partir de telles situations que notre souveraineté doit se faire voir et appliquer et manifester et aussi imposer.
Merci beaucoup Franck, vous êtes à Vienne. Nous avons aussi quelques commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Tinaï Jean-Pierre qui est à Kananga, à mon avis, la Belgique a pleinement raison d'agir ainsi, d'autant plus qu'elle s'est rendue compte que la légitimité des autorités actuelles n'était garantie que par l'accord qui n'avait qu'une durée courte. Comment peut-on dans une opération aller-retour se confier à quelqu'un reconnu par exemple dans les quartiers où il réside? Au moins qu'on agisse dans l'inconscience pour financer le pays par les biais des autorités qui eux-mêmes ont des problèmes sérieux de légitimité. Patrick Ntola Pigou dit ceci, que la Belgique s'intaise, elle doit reconnaître qu'elle a une dette morale envers nous. Elle fut la première à tuer nos grands-pères, elle nous a laissé un héritage qui est la souffrance, bien que nous-mêmes ayons réclamé l'indépendance. Cette pauvre Belgique n'avait pas une idée dans sa tête de nous préparer à l'indépendance. C'est même la cause de tous les maux que nous vivons dans ce pays. Une colonisation axée sur la surexploitation de nos ressources, tant humaines, financières, minières, matérielles et autres. À Kananga, Adrien, merci de nous avoir contacté. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute, Adrien.
Oui, Pierrot, il faut dire que ce n'est pas d'abord une surprise pour la décision de la Belgique, mais aussi il faut dire que toute personne sérieuse ne peut que féliciter donc la décision prise par la Belgique, parce que ici il faut préciser certains concepts. Il ne s'agit pas d'une décision tirée de la conséquence de la légitimité ou de l'illégitimité de qui que ce soit, mais il s'agit tout simplement d'une décision tirée suite à un certain comportement affiché par les dirigeants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre lorsque un pays ami vous fait des recommandations, vous dites tout simplement de respecter votre propre constitution. Ce n'est pas la constitution belge, ce n'est pas la constitution française, mais la constitution congolaise. Mais vous, vous comportez de n'importe quelle manière, et c'est comme ça que la Belgique s'est rendue compte que peut-être le financement reçu d'elle, et c'est ce qui est en train de favoriser pour mater la population, pour que la population ne puisse pas s'exprimer. Aujourd'hui, pendant que je vous parle dans la prison de Kananga, il y a nos amis de la Lucha qui sont là. Mais lorsque vous posez les questions de savoir pourquoi ils sont là-bas, non, parce qu'il y a un homme politique qui voulait faire plaisir à sa hiérarchie à Kinshasa, pendant que Kinshasa voulait manifester leur opinion pacifiquement. Non, on les a pris, on les a jetés en prison. Et tout ça, vous voulez que la Belgique puisse applaudir? Non. Et puis deuxièmement, j'aimerais dire que la RDC doit énormément tirer attention, parce que nous acheminons petit à petit vers ce qui était arrivé au régime Mugabe au Zimbabwe. J'ai suivi sur certaines chaînes internationales, d'ici une semaine, ça sera le tour de l'Union européenne, et donc de geler ou bien de retirer aussi donc son financement. Et l'Union européenne sera suivie par certains pays. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les uns et les autres doivent tirer énormément attention et se poser des questions. Pourquoi nous arrivons à ces stades? Pourquoi, lorsque il faut respecter votre propre constitution, vous voulez qu'on puisse vous suivre avec des fouets derrière? Troisièmement, lorsque nous prenons maintenant l'analyse de certains de nos amis, il y a Christian qui a dit qu'il faut travailler avec les ONG internationales. Je dis à Christian, non, il faut tirer attention. Parce que lorsque nous prenons l'expérience des aides humanitaires ici au Kasaï, lorsqu'on a voulu travailler avec les ONG internationales et poser la question aux gens, ils vous disent que ils ne sentent absolument rien. Pourquoi? Parce que...
Alors là, on a des petits soucis, maître Adrien, avec votre ligne. Mais vous estimez que il ne faut pas tirer sur la Belgique et l'agir en fonction de la situation au pays, parce que c'est une question de respect de notre propre constitution. Mais vous êtes en train aussi de vous inquiéter par rapport aux ONG internationales, parce qu'il n'y a pas de modèle. On a évoqué ça dans une de nos émissions sur la situation survenue au Kasaï, que beaucoup de gens n'ont pas bénéficié de l'aide qui serait passée entre les mains des ONG internationales. Mais la qualité de la ligne téléphonique s'est détériorée entre Kinshasa et Kananga. Nous allons revenir à vous, le temps d'écouter notre invité, Singhi Pouloulou. Vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne ainsi que Trésor ici à Kinshasa. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel. Si vous avez besoin d'intervenir en direct, 081-890-4969.
Grande Interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Maître Guillaume Mandelot, vous avez suivi nos compatriotes, hein, les points de vue sont partagés, vous avez noté avec moi, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot par rapport à toutes ces interventions?
Je peux comprendre au fait que la passion l'emporte sur la raison et les frustrations sont assez dynamiques, ce qui pousse à ce que les gens puissent sortir ce qu'ils ont dans les tripes en fonction de leurs sentiments propres. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et lorsque je parle des cadres de coopération entre la Belgique et la RDC, il semble que j'y ai participé en tant qu'expert derrière le ministère Montchibanda. Et par conséquent, on a fixé un certain nombre de principes et des règles à observer à tout moment, peu importe la situation. C'est ce qui a été convenu. Et partant de là, il faut respecter les règles. Il s'agit simplement de ça. Il ne s'agit pas de sentiments, il ne s'agit pas de pouvoir dire si c'est là. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que l'Algérie, au jour d'aujourd'hui, coopère avec l'Europe ou non? Bien entendu. L'Algérie reçoit de l'aide, continue à coopérer. Mais l'Algérie a défendu les manifestations depuis quasiment 12 ans. On ne manifeste plus en Algérie. Ça fait de l'Algérie un pays infréquentable? Non. Je ne suis pas en train de transposer sur la RDC. Je dis simplement, voilà un modèle qui, en collaboration permanente avec l'Europe, d'ailleurs à la porte de l'Europe, pour les besoins des Européens, notamment d'étouffer les fils, donc c'est-à-dire que les partis islamistes, ils ont convenu de faire cette façon-là. Vous comprenez? Et quand on regarde, avant de revenir à la déclaration de Paris, puisque c'est important de pouvoir y revenir, en tant que l'expertise réelle, il ne s'agit pas des sentiments, il s'agit des textes et ce qui est convenu. Puisque j'ai entendu quelqu'un parler des règles internationales, les conventions universelles et tout ça, bon, il ne faut pas aller dans tous les sens, il y a des textes précis par rapport à chaque situation. En l'espèce ici, on peut faire référence à la déclaration de Paris et ce qu'elle dit exactement. Mais en même temps, regardez bien ce qui s'est passé en 1960. C'est ça, en fait, il y a une sorte de photographie particulière qui veut que la Belgique, quand elle opte une option politique en RDC, elle se fixe sur cette option politique. La Belgique ne veut pas de ses gouvernements depuis très longtemps. Elle souhaiterait en avoir un autre. Elle ne veut pas du personnel politique actuel qui gère les pays. Elle voudrait un autre personnel politique. Alors, par des moyens un peu détournés, par des machinations aujourd'hui qui montrent leurs insuffisances, va dans cette direction-là. C'est très malheureux. Parce que en 60, alors même que Lumumba avait gagné des élections, sur 137 sièges, sa coalition avait plus ou moins 71, me semblait-il, et lui-même, MNC, avait 41 sièges. Mais au lieu de donner les titres ou la mission des formateurs par les ministres résidents, on lui donne l'information. Ça n'est pas normal, parce que la Belgique avait estimé que ces messieurs étaient équivoques et par conséquent, ils ne pouvaient pas gérer le pays. Il faut qu'on se souvienne de l'histoire. Quand quelqu'un parle d'histoire ici, il faut se rappeler de la bonne histoire côté congolais. Il ne faut pas écouter l'histoire qui est écrite par les autres, votre propre histoire. On peut avoir des tensions internes qu'on peut régler, mais simplement il faut se rappeler que notre parcours nous impose d'avoir toujours un regard dans les rétroviseurs. Je ne peux pas me permettre de dire aujourd'hui que ça va en RDC. Jamais, j'ai jamais dit ça. Mais simplement que ça aille ou ça n'aille pas, nous sommes liés quand même à sortir de temps en temps des sentiments, à mettre en exergue les règles. que disent les règles? Les règles entre la RDC et la Belgique, on a convenu dernièrement, donc en 2009, j'insiste sur cette dernièrement en 2009, le 24 janvier 2009, deux premiers ministres, un du Royaume, l'autre de la République, se sont mis en place pour pouvoir dire, dorénavant, on ne fera plus jamais ça. On va respecter la souveraineté. Quelques différends qu'on puisse avoir, on doit les régler de manière pacifique, par voie diplomatique, et après, on sortira un communiqué commun. C'était ça. Mais on n'est plus là-dedans. On est dans une sorte d'attaque directe d'un groupe de gens. D'ailleurs, c'est même pas toute la Belgique. C'est un groupe de politiques qui sont aujourd'hui identifiés, appartenant à un mouvement qui, me semble-t-il, a aidé la RDC pendant une période, mais très très bien, au jour d'aujourd'hui, à tourner Kazakh pour aller dans une direction qui n'est pas opérationnelle. Ils avaient espéré qu'on puisse avoir une déflagration totale le 31 décembre 2016. Ça n'a pas eu lieu. Ils ont espéré la même déflagration en 2017. Elle n'a pas eu lieu. On déplore, je suis le premier à pouvoir le dire, je l'ai dit sur les chaînes internationales, notamment sur TV5, on déplore ce qu'il y a eu comme dégâts et morts. Mais simplement, on rappelle que l'espérance de la déflagration, de la fracture définitive de la RDC permettant de créer un autre ordre ou un autre désordre pour amener à la dislocation de la République n'a pas eu lieu.
Mais maître, à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre part de responsabilité? Parce que rappelons que si cette question électorale revient, c'est aussi de notre responsabilité de pouvoir organiser les élections. On devait les avoir en 2016, on les a pas eu. 2017, on les a pas eu. C'est possible qu'on les ait le 23 décembre 2018. Est-ce que c'est pas aussi de notre part, comme si on dirait que nous prêtons le flanc pour que les autres profitent pour nous tirer?
Monsieur Pierrot, je conviens avec vous, mais simplement il faut rappeler les choses dans leur substance. Il y a eu une convention qui s'est passée à la Cité de l'Union africaine en octobre 2016. Suivi par la convention du 31 décembre 2016 toujours, à la CENCO. Les deux conventions disposaient qu'effectivement on devait faire les élections. L'une, la première convention à la Cité de l'Union africaine, disait en 2018, avril. La deuxième disait en 2017, en décembre. Mais simplement, elle continuait à dire ceci, dans l'hypothèse où c'était pas possible, on prorogerait.
Oui.
Bon, très bien. Arrivé à la période, puisqu'on a mis en place plutôt la deuxième convention. Et cette deuxième convention disait que les institutions, on ne pouvait pas y toucher. On ne touche aucune institution. Et arrivé au 31 décembre, on fait l'évaluation si on n'a pas fait les élections pour voir si on peut proroger ou pas. C'est ce qui s'est passé. On peut ne pas être d'accord avec ceux qui participent, les acteurs. Mais simplement, la convention a été respectée dans sa substance et dans ses termes. Et alors, la convention dit qu'on peut proroger. Au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a rapproché qu'il ne fallait pas dire au jour d'aujourd'hui, alors que bon, aller visiter George Sand, ça existe. Lorsqu'on regarde ce qui a été dit par les Nations Unies, par l'Union Européenne, unanimement, ils ont convenu qu'effectivement, on donne encore la chance au processus jusqu'en décembre, au 23 décembre 2018. Mais en vertu de quoi peut-on dénaturer tout pour commencer à sortir ce type de fatwa sur la RDC, alors que d'une part, on a une normalisation des relations entre la RDC et la Belgique, entérinée le 24 janvier 2009 entre les deux chefs de gouvernement, et puis d'autre part, on a les conventions passées entre les Congolais à la CENCO, qui disposent de la même façon, et qu'on est dans les processus, et c'est l'année électorale. Nous sommes dans l'année électorale. Parce que, au fait, comme certaines personnes, pas la Belgique, j'ai pas envie d'attaquer la Belgique, n'a rien à voir. Vous avez des personnalités politiques qui ont voulu être une sorte de mentor à certains politiques qui sont à l'extérieur, espérant les apporter sur un siège sans élection, et c'est ce qu'ils tentent de pouvoir faire maintenant par des tours de passe-passe. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire, malheureusement.
Voilà. Maître, mais si on revient dans le fait, quand la Belgique parle de 25 millions, faudrait-il vraiment que la RDC, le grand pays, la RDC avec autant de ressources qu'on peut mobiliser, que les gens s'inquiètent pour 25 millions de dollars, quand même?
Non, il ne s'agit pas de 25 millions. Les 25 millions, c'est accessoire, c'est même pas important. C'est les principes, au fait, c'est pas l'argent en soi. Parce que je rappelle quelque chose. En 2006, on a eu de la communauté internationale plus ou moins 500 millions de dollars qui avaient été versés pour pouvoir organiser les élections. Bien, au-delà des aides habituelles. 500 millions de dollars on avait plus ou moins une centaine d'avions qui avaient été mis à disposition de la CENI. On avait 450 experts qui avaient été mis à la disposition de la CENI pour organiser les élections. Au jour d'aujourd'hui, donc actuellement, nous faisons sur fonds propres, depuis le départ. Ce qui fait qu'on a bénéficié de rien du tout. Des fausses promesses ou des promesses assorties d'énormes conditionnalités qui finalement, rien n'est arrivé. Donc c'est sur fonds propres que la RDC fait son parcours vers les élections. Alors, maintenant, si la Belgique sort du bois, si la Belgique, certains leaders politiques de la Belgique, acteurs politiques de la Belgique, pas la Belgique elle-même, parce que j'ai du respect pour la Belgique, mais il y a des gens au sein de la gestion des acteurs politiques belges qui méritent quand même de pouvoir réfléchir, de sortir de la passion, de l'idée de la colonisation ou de la post-colonisation pour passer à autre chose. Vous savez, cette politique de l'inimitié, comme dit Achille Mbembe, doit absolument être tue au profit de la collaboration de l'humanité. Maintenant, les ONG, oui, les ONG, peut-être qu'on va y revenir, parce que j'entends dire des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Pour l'essentiel, l'aide passe par les ONG. L'aide passe par les ONG. Toutes les conventions qu'on a faites avec les pays étrangers, lorsqu'ils donnent l'aide, c'est sous-traité par les ONG. Mm-hmm. Très souvent, c'est par leurs propres agences de coopération. D'ailleurs, ici en Belgique, on a la CTB qui fait ce travail-là depuis très longtemps. Ce qui fait ça passe pas dans les caisses de l'État congolais. Ça passe au niveau de la CTB qui est redistribue sur le terrain. Mais néanmoins, il y a un cadre de concertation dans la mise en œuvre de cette politique sur le terrain entre le ministère de la coopération et la coopération technique belge. C'est ce qui s'est fait. Donc, il y a ce qu'on appelle les SMICEL entre les deux entités, c'est-à-dire qui est situé au niveau du ministère de la coopération et la coopération technique belge. Donc, ce qui fait que les trésors publics congolais ne reçoivent pas un sou directement de la Belgique. Ça n'existe pas. Parce que les gens pensent qu'effectivement, cet argent arrive, va être au trésor public et l'État en dispose comme il veut. Non, c'est pas ça du tout. Cet argent est géré directement par la coopération technique belge qui sous-traite à travers certaines ONG. Alors qu'on dise maintenant qu'on va sauter cette étape des transmissions dans les cadres de la coopération et des cadres de coopération mixte entre RDC et Belgique pour transférer directement, ce qui est une faute par rapport à la déclaration de Paris. Merci. La déclaration de Paris souscrite par la Belgique convient que les pays qui reçoivent doit avoir l'autorité des pouvoirs orientés.
Mmh. Voilà, Nsingi Poululu, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, Trésor à Kinshasa et John Aïsiro. On vous accorde la parole. Monsieur Nsingi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci à
Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu, parce que là on a des petits soucis. Si vous êtes dans un bâtiment, si vous pouvez vous déplacer tout en intervenant.
Oui, je disais que depuis l'indépendance, la Belgique nous a aidés et appuyés. Internel. Nous devons reconnaître que tout n'est pas parfait. Et la Belgique aussi, comme internationale, se rappelle qu'ils ont l'habitude de construire des points les terrains pour
Si vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît, monsieur Singhi, là, on a des petits soucis. Pourriez-vous changer de lieu si vous êtes dans un bureau? On sait qu'il pleut sur Kinshasa. Essayez de vous déplacer un tout petit peu. La réalisation va vous recontacter pour voir comment améliorer, la qualité. Oui. Je crois que vous êtes déplacé. Pourriez-vous intervenir? Pour le moment, on va voir si ça peut aller.
Je disais que, je sais pas si j'ai passé bien, maintenant.
Oui, allez-y.
Alors, je disais que depuis l'indépendance, la Belgique nous a toujours accompagnés, aidés et appuyés. C'est notre parrain éternel. Nous devons reconnaître que tout n'est pas parfait. Et la Belgique aussi est la communauté internationale. Et rappelle que nous avons possibilité de collaborer avec les vétérans politiciens congolais qui ont montré leurs limites dans la gouvernance. Alors que la nouvelle classe politique existe déjà, dont la personne de l'ingénieur Fissien Tsingipoulou. Nous avançons sur le chemin de la démocratie, chemin difficile et plein d'embûches. Aujourd'hui, la Belgique ne peut pas nous abandonner sans courir les risques de remettre en cause les acquis qui doivent nous amener aux élections le 23 décembre 2018, comme nous avons quand même un gouvernement de transition. Nous avons quand même un calendrier électoral accepté par tous. Nous avons la loi électorale promulguée et nous avons la garantie de la déclaration du président Joseph Kabila qu'il respecterait la Constitution, c'est-à-dire il ne va pas se présenter aux élections. Nous demandons à la Belgique et à la communauté internationale de renforcer ces éléments cités par un comité international d'accompagnement des processus électoraux, CIAP, dans l'objectif de nous amener aux élections crédibles, transparentes et apaisées. Pour rappel, le département américain a bien précisé par la bouche de son ambassadeur Nikki Haley que le président Joseph Kabila conduise la transition jusqu'en fin 2018 à l'immaturité politique qu'il a contrée aux différents vétérans politiciens congolais. Alors, comment notre parrain Belgique veut nous abandonner? Belgique se rappelle, en 2011, dans les délais réglementaires et de l'illégitimité normale du président Joseph Kabila, mais il y a des irrégularités reconnues. En extrapolant, nous pouvons prédire que la majorité présidentielle organisera les élections chaotiques, plus chaotiques encore s'il n'y a pas l'aide de la communauté internationale. La Belgique ne peut pas nous abandonner. Son rôle et appui nous sont nécessaires.
Alors, si on vous suit bien, monsieur, vous dites que le fait qu'on ait un calendrier électoral, on a un gouvernement consensus, on a l'engagement du chef de l'État qu'on doit avoir les élections, c'est déjà les éléments, les acquis sur lesquels la Belgique devait se baser pour aller accompagner la RDC jusqu'aux élections plutôt que prendre des décisions qui puissent fragiliser cela.
Oui, parce que ce qui reste, c'est seulement les SIAP. Comité international d'accompagnement du processus électoral. Comme ça était en 2006, on appelait ça Comité international d'accompagnement de la transition. Maintenant, nous créons les SIAP, Comité international d'accompagnement du processus électoral. C'est pour avoir la vigilance parce que nous avons maintenant plein de vétérans politiciens. Nous avons plein de vétérans politiciens. Aujourd'hui, si vous voulez mettre fin à ces vétérans politiciens, il est normal qu'il y ait des élections crédibles et transparentes. Mais pour que les élections soient crédibles et transparentes, nous avons besoin de l'assistance de la communauté internationale. Cette sanction, vue comme sanction d'une part, c'est aussi un blocage du processus électoral de l'autre part. C'est pourquoi nous nous demandons à la Belgique, qui nous a toujours assistés, qui nous a toujours aidés, et à la communauté internationale. La Belgique est notre parrain éternel. Il ne peut pas se fatiguer de nous. Il sait que la classe politique est médiocre. Ça, il sait. C'est depuis très longtemps. Ils ont l'habitude de collaborer avec les vétérans qui ont prouvé sur la face du monde qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent plus rien donner du bon. Que ce soit pour les Congolais ou que ce soit de la communauté internationale.
Merci.
Les pays Congo et même de la communauté internationale. Ces pays peuvent nourrir ses propres fils et même 40% de la population du monde entier. Mais avec qui faire ça? C'est pourquoi je demande à la Belgique de ne pas se fatiguer.
Et de continuer à soutenir la RDC. Et vous estimez que le seul moyen de pouvoir renouveler la classe politique, si les Belges veulent bien, le renouvellement, c'est passé par les élections, c'est votre point de vue. Et puis là, vous pensez que pour arriver à ces élections, il faut un accompagnement de la communauté internationale pour avoir des garanties de la transparence. Merci beaucoup, monsieur. On reste ici à Kinshasa avec vous, Trésor. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Trésor.
Bien, merci. Je pense que la position de la Belgique n'est pas de nature à aider les peuples congolais. C'est une position qui vise simplement à endormir les Congolais et à dénigrer la République démocratique du Congo pour rien. Pour le moment, les Congolais n'attendent pas de la Belgique et de la communauté internationale le gel des avoirs de certains politiciens congolais, la désorientation des financements, des aides. C'est pas ça la préoccupation des Congolais. Nous avons un calendrier électoral en cours. Maintenant, si la communauté internationale, en particulier la Belgique, voudrait bien aider la RDC ou faire pression aux dirigeants actuels d'organiser les élections dans les délais, que la communauté internationale, en particulier la Belgique, puisse vérifier dans les contraintes présentées par la CINE et voir à quelle mesure cette communauté internationale, la Belgique, peut mettre les moyens, précisément les moyens financiers, pour nous aider à surmonter ces contraintes. Mmh. Et demander à la CINE, vous avez besoin de combien en termes d'argent? Autant. Alors, nous en avons ici. Voici l'argent. Organiser les élections. À ce moment-là, nous allons dire que la Belgique veut aider le peuple congolais. Mais ce qu'elle est en train de faire, des déclarations qui ne cadrent même pas avec les règles de la diplomatie, c'est une façon de distraire le peuple congolais. Et nous ne voulons pas cela.
Merci.
Donc je suis tout à fait d'accord pour tout cela, la communauté internationale, d'autres pays africains ou européens qui voudraient faire pression à notre pays en vue d'organiser les élections. Moi, je suis d'accord. Mais des distractions pareilles, cela ne nous arrange pas et nous
merci
sommes
contre beaucoup.
Cela et nous disons non à la Belgique.
Merci beaucoup, Trésor John et Brejnev. Je reviens à vous rapidement, Maître Guillaume Mangiolo. Est-ce que dans ces interventions des auditeurs, et ce que Trésor vient de dire tout à l'heure, c'est que Singhi dit, si on a besoin des élections, on doit soutenir la RDC. Avez-vous cette impression? Vous avez dit que c'est pas la Belgique, ce sont des individus, que les gens ne veulent pas qu'on ait des élections à RDC par rapport à une telle décision.
Mais tout à fait, quand vous suivez, les Congolais en général se veulent aller aux élections. Il y a un intervenant qui vient de préciser qu'effectivement, par rapport à ce qui a été convenu, on sait très bien, et notamment Nikki Haley l'a dit, que pendant la transition sera conduite, et Nikki Haley, c'est pas n'importe qui non plus, on est là, ce sont les Nations Unies, c'est les États-Unis d'Amérique qui disent, et d'abord qui contribuent plus que tout le monde, hein, notamment pour le maintien de la paix en RDC, qui disent que bon, la situation reste telle quelle jusqu'au 23 décembre 2018. En vertu des quoi quelqu'un au niveau de la Belgique déciderait de pouvoir modifier le cours des choses à son propre profit, parce que tout simplement, il estime que son programme ou son projet de la déflagration à travers un individu ou un groupe d'individus n'a pas marché. Et maintenant, il faut trouver d'autres mécanismes en fait de perturbation. Bon, maintenant,
rapidement.
Oui, rapidement. Mais
on va écouter les deux derniers auditeurs. Oui.
Oui, c'est quand même important de rappeler certaines choses. Il n'y aura pas en RDC, quoi qu'on dise, la possibilité d'une épuration politique. Si la Belgique pense, si ces acteurs politiques belges pensent qu'ils feront en sorte qu'il y ait une épuration politique en RDC, ils se trompent. Au jour actuellement, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la gestion de la République, on a quasiment tous les enfants de la République. Aussi bien ceux qui ont travaillé avec Mobutu, que ceux qui travaillent avec Kabila père et Kabila fils, sont ensemble en train de travailler. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce sont nos guerres internes, mais en même temps, on collabore tous pour les bien-être de la population. Ce qui fait que, prochainement, aux prochaines élections, il y aura toujours la même configuration. Les anciens qui ont participé avec Mobutu,
exact.
Kabila père, Kabila fils. Vous ne pouvez pas défenestrer une partie
toute
de la
une
population
génération
en disant
pour une
au profit
nouvelle.
Juste d'un groupe de gens. Ce n'est pas faisable en RDC. Il faut se tromper par rapport à la fois au peuple congolais qui sont multiples, qui ont aussi une affection particulière aux uns aux autres, tout ça, ça ne sera pas opérationnel. Donc c'est tromper que d'avoir cette vision-là, cette option-là, elle n'est pas opérationnelle en RDC.
John, vous êtes à Isiro, rapidement, en une minute, c'est Brejnev qui est à Obandundu. John, bonjour.
Bonjour, cher Pierrot, bonjour à l'invité.
Voilà,
bonjour.
On vous écoute rapidement.
Oui, je suis d'avis avec la Belgique parce que nous, d'abord, Congolais, nous n'avons plus confiance au régime en place. Je vois mal comment la Belgique peut avoir la confiance au gouvernement qui est presque à sa faible. Maintenant, je me demande comment la Belgique peut envoyer l'argent et que l'argent parle dans la poche des gens. C'est très difficile par rapport à ça. Même si nous réclamons aujourd'hui les élections, mais maintenant l'argent va dans les poches des individus. C'est un peu difficile parce qu'il n'y a même pas la volonté d'organiser les élections aujourd'hui.
Mais rappelons quand même. Oui, John. Oui, allez-y.
Le problème qui est là. Je ne vois aucun parent qui peut les aider à s'attendre seulement pas à la réussite mais à des échecs. Ce qui démontre que non, je suis en train de craindre que non, l'acte de Belgique puisse aussi affecter notre partenaire parce que si le pays est mal gouverné, ça peut affecter aussi d'autres partenaires parce que ce qui est vrai que faut que le gouvernement puisse réfléchir pour changer quand même la façon de gérer les choses publiques. Un ministre qui quitte le pays pour aller en Europe et signer que non, nous sommes un pays très endetté, nous sommes un pays pauvre, maintenant on lui donne l'argent, maintenant arrivé au pays, on aurait servi la pauvre population, il met l'argent à poche. Vous trouvez ça normal que la Belgique puisse continuer seulement.
Mais si vous avez suivi, John. John, si vous avez suivi tout à l'heure, les précisions avec notre invité, il a dit que l'aide humanitaire ne passe pas par le gouvernement, ça n'entre pas dans le trésor public, c'est déjà à travers la coopération technique belge vers les ONG, mais pour vous, vous estimez que c'est une question de confiance. Brejnev, on va terminer avec vous êtes à Bandundu-Ville, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et en une minute, votre point de vue.
Non, merci beaucoup. En une minute, moi, je félicite d'abord l'initiative de la Belgique parce que nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Étant donné que la population souffre au jour le jour, je pense qu'il est tout à fait logique que la Belgique puisse suspendre son aide et puis orienter ça peut-être dans les ONG peut-être qui sont proches de la population. J'aurais souhaité en même temps que la Belgique puisse aller plus loin encore, solliciter encore, influencer certains partenaires à telle en sorte que qu'on puisse plier ces régimes, parce que ces régimes nous a démontré de quoi qu'il est capable, c'est-à-dire il ne peut pas revenir à l'arrière. Lorsque l'invité vous dit que non, il n'y a pas l'épuration politique, ça ne se fera pas. Moi, je dis, c'est faux et archi-faux, monsieur. L'épuration politique, nous les vivons au quotidien. Lorsque vous prenez les gens comme de Franck Diongo, qui sont incarcérés, vous prenez les gens comme de Moïse Katoum, qui ne peuvent plus revenir au pays. Donc, toutes ces histoires-là, dont je pense qu'il est tout à fait impérieux pour la Belgique.
Merci.
Et suspendre son aide. En tout
merci,
cas,
merci nous, beaucoup, Bepel Genève. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer avec un message sur la page Facebook. Marcel Kanga, franchement, c'est une grosse blague. Depuis 1980, les Belges n'ont fait que ça. Qu'est-ce qui avait changé dans les quotidiens des citoyens zaïrois, congolais? Ces aides passent toujours par la société civile. Et quel a été toujours l'impact? Ce sont des gros montages financiers. La majorité de l'aide va à Dubaï, il n'arrive pas en RDC et dans d'autres pays. On revient à vous, Maître Guillaume Mandjulo, vous avez suivi les uns et les autres les débats. On ne peut pas terminer malheureusement toutes les matières dans une émission d'une heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme mot-clé au-delà de tout ce qui a été dit?
Je pense que déjà il y a une correction à apporter par rapport à ce que j'ai dit. Épuration politique, c'est la Belgique qui décide d'éliminer une catégorie politique en RDC au profit d'une autre nouvelle qu'elle elle-même constitue. Enfin, la Belgique, les acteurs belges. Certains acteurs belges. Et nous, on n'est pas intervenu, par exemple, à la participation d'un parti d'extrême droite qui, aujourd'hui, règne en Belgique, les NVA, ex-Vlaams Belang. On n'a pas dit un seul mot par rapport à ça, parce que ce sont des affaires internes. Mais simplement, l'avenir, il faut dire à tout le monde, l'avenir du monde se joue notamment en RDC, notamment sur les enjeux de l'environnement. Et la Belgique, c'est un partenaire qui doit devoir considérer ça, parce que ceux à qui s'adresse aujourd'hui, peut-être de manière inacceptable, demain, il aura besoin d'eux pour pouvoir collaborer pour prendre l'option de la gestion de l'environnement sur la planète à travers la RDC. Il me semble que ce ne sont pas les bonnes méthodes à faire. Elles ne sont pas opérationnelles aujourd'hui. Elles n'ont pas produit les bons effets dans le passé. Elles ne produiront pas des effets aujourd'hui. Qu'elles se tiennent les élections, ce serait mieux.
Merci beaucoup, Maître Guillaume Mandjulo. Je rappelle que vous êtes avocat, écrivain et secrétaire général de l'ULDC, l'Union de libéraux démocrates chrétiens, un parti de la majorité présidentielle. Merci de nous avoir accordé de votre temps.
Merci à vous.
Et nous recevons dans ce studio Nico Kalambay. Nico, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On se retrouve demain vendredi à 11h pour un autre numéro des paroles aux auditeurs.
Le tout dernier de la semaine, donc on sera là pour 57 minutes de paroles aux auditeurs demain. Et Pierrot, vous savez, après 2 ans d'instabilité du taux d'échange en RDC, une dépréciation très forte face au dollar américain avait frappé l'année dernière le panier de la ménagère congolaise. Le gouvernement Tshibala avait promis de stabiliser la monnaie nationale et de maintenir le taux à 1500 francs pour un dollar sur une bonne durée. À ce jour cependant, le dollar américain s'obtient donc moyennant 1600 francs congolais. Quel regard portez-vous sur cette récurrence de la fluctuation monétaire? C'est autour de cette question que tournera le débat de demain.
Et on va se retrouver tout à l'heure. Les auditeurs vont retrouver ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs cet après-midi. Et cette émission que nous avons présentée est sur www.radiocapi.net. Merci Nico, au revoir.
Merci Pierrot.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde, Gilles Lungembo était à la coordination et Nico Kalambay a réalisé ce magazine que Pierrot et la Meiji vous a présenté sous la supervision de Julien Nemouini. L'émission est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain à 11h05, heure de Kinshasa. Au revoir.